Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on explore encore la forêt avec un expert qui a parfois le blues. Francis Allé, j'étais presque un peu craintive en venant vous voir ce matin et pourtant on se connaît bien. En général, ça se passe très bien, mais j'avais une proposition un peu curieuse à vous faire, et voilà que elle semble vous réjouir. Donc, on y va, on se lance, voilà. Ma proposition, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Plaidoyer pour la forêt tropicale, aux éditions Actes Sud, qui est encore un très beau livre sur la forêt dont on va parler, qui a, je trouve, énormément de qualités, et en particulier une qualité particulièrement précieuse aujourd'hui, celle de s'adresser vraiment à tout le monde. De s'adresser à un public très large, d'être vraiment extrêmement compréhensible sans rien renier de la qualité de l'information qui y est contenue. Donc voilà, ma proposition, c'était d'entamer avec vous une série d'émissions que j'ai envie de faire sur le thème que j'intitule « Le blues de l'expert ». On a aujourd'hui un certain nombre d'experts qui sont extrêmement compétents, chacun dans leur domaine. Vous, c'est la botanique tropicale en particulier, les forêts tropicales. Des gens donc qui ont acquis énormément de connaissances, qui ont consacré leur vie en général à un thème qui les passionnait. Et des gens qui aujourd'hui ont des informations très inquiétantes à donner et qui n'arrivent pas à se faire entendre.
Le blues de l'expert, je le vis au quotidien. Je voudrais d'abord faire remarquer qu'il y a des experts qui n'ont pas du tout le blues. Hein. Ça dépend dans quel domaine on est.
C'est vrai.
Alors moi, effectivement, je suis horrifié. Je suis horrifié depuis, je dirais, les années 80. J'ai réalisé que les forêts tropicales étaient l'objet d'une espèce de pillage et honté. Je n'ai jamais cessé de protester contre ça, les gens le savent, mais on n'en tire aucune espèce de conséquence. J'irais même jusqu'à dire que la courbe de la déforestation, elle s'accélère. On a l'impression que les coupeurs de bois, ils se disent qu'il faut y aller parce que bientôt on va nous empêcher, donc tant qu'on nous laisse faire, allons-y. C'est horrible, c'est absolument horrible.
Comment est-ce que vous avez essayé de parler de ça? Vous dites « je ne cesse de protester ». Comment est-ce que vous avez agi au cours de votre carrière?
Agi, peut-être pas suffisamment. Oui, j'ai planté beaucoup d'arbres, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Non, j'ai parlé à beaucoup de médias, beaucoup de journaux notamment. D'ailleurs, ça reçoit un accueil extrêmement sympathique. Je m'aperçois que mes interlocuteurs, non seulement ils sont au courant, mais ils sont de mon avis. C'est votre cas, Ruth.
Oui.
Et ça sert à quoi? Ils s'en foutent, les coupeurs de bois. C'est comme si on n'était pas sur la même planète. Ils sont au courant des critiques qu'on leur adresse, mais...
Vous en avez rencontré?
J'en ai rencontré, bien sûr. Je vais souvent dans les chantiers forestiers. D'ailleurs, c'est pas avec les gens qui sont sur les chantiers mes problèmes. Des jeunes gars qui ont trouvé un boulot et qui abattent des arbres, moi je me dis qu'à leur place, j'en ferais peut-être autant. Mes vrais ennemis, c'est les dirigeants de ces boîtes-là. Et ceux-là ne mettent jamais les pieds en forêt. À la limite, ils viennent à la capitale faire quelques repas, mais c'est tout. Ils ne connaissent pas la forêt. C'est cela que je déteste.
Et cela aussi, vous les avez croisés, puisque vous dites qu'ils ne viennent jamais en forêt?
Oui, je les ai croisés. Ça m'arrive de les croiser au ministère, par exemple, des affaires étrangères ou de l'écologie. Mais on ne peut pas discuter. Le film avec Luc Jacquet a été une expérience très intéressante. Ouais, je vais raconter ça, parce que j'emmène un grand groupe, on était une trentaine d'expatriés, disons. Et au début, ils voyaient de la forêt partout, bien sûr, puisqu'on a choisi des beaux endroits. Ils m'ont dit, mais de quoi tu te plains avec ton histoire de déforestation? Il y a des arbres à perte de vue. Donc, c'est pas vrai. Alors, je suis très content que la séquence finale, ils aient eu l'occasion de mettre les pieds dans un chantier d'abattage. Je peux dire que c'est pathétique quand on est en train de tourner un film en hommage à la forêt équatoriale. Et toutes les 5 minutes, je blague pas, toutes les 5 minutes, des bruits de tronçonneuses, des arbres qui tombent, ça fait vibrer tout notre matériel parce que ça fait trembler le sol. À 100 mètres, un arbre qui tombe, ça fait trembler le sol. Bref, ils l'ont vu, ça. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et ils ont vu à ce moment-là que je me foutais pas d'eux.
Jusque-là, ils n'avaient pas vraiment cru.
C'est-à-dire que c'était un peu... Ils n'avaient jamais mis les pieds en forêt équatoriale, hein, ces gens. Et je les ai emmenés dans des très beaux endroits, puisque c'est ça qu'on cherchait. Donc ils avaient un peu de peine à me suivre dans mes raisonnements sur la déforestation. Maintenant, ça y est, ils ont vu. C'est monstrueux. Une espèce de viol de la forêt qui me répugne. Il y a d'ailleurs une très forte dose de machisme dans le travail de ces gens-là.
Vous incriminez les dirigeants des entreprises, Francis Allais, mais vous parlez aussi des ministères.
Bien entendu, le pouvoir politique est profondément mouillé dans cette histoire. Si je prends le cas de la France, que ce soit la droite ou la gauche, ils sont autant mouillés dans l'utilisation des ressources forestières de l'Afrique à des fins électorales. Aucun doute là-dessus. Et donc... Je m'entends pas mieux avec les gens des ministères qu'avec les coupeurs de bois.
En fait, c'est même pour ça que vous avez voulu faire ce film, que vous avez cherché longuement quelqu'un qui accepterait de tourner, quelqu'un qui accepterait de produire. Votre idée, je me souviens, c'était qu'il fallait à tout prix montrer la forêt avant qu'elle disparaisse.
C'est un peu ça. C'est triste à dire, mais on aimerait que ce film ait des ambitions plus élevées. Mais s'il ne parvient pas à sauver la forêt, au moins nous restera-t-il un témoignage de ce que c'était. Et le témoignage, je trouve qu'il est beau. J'ai eu la chance de tomber sur un cinéaste de très grand talent qui s'est passionné pour son sujet et qui nous laisse un film patrimonial. Et quand je le montre aux gens, enfin quand je vais le commenter dans des cinémas, les gens me disent « Enfin, on a ce film !» Voilà, c'était un manque, ça nous manquait. D'ailleurs, je m'aperçois que j'arrête pas d'aller le commenter. Ça me donne un boulot pas possible. Mais en même temps, je suis content de voir que les gens avaient envie de ça.
Donc, envie de ce film, il était une fois une forêt, et puis ce livre, oui. Plaidoyer pour la forêt tropicale.
Ils auraient dû sortir ensemble, mais le distributeur Disney France, n'en a pas voulu.
De votre livre?
Oui, parce que... Il aurait fallu dire uniquement des choses qui plaisent et je dis là-dedans des choses qui fâchent. Alors j'avais le choix entre le sortir en même temps que le film, mais sans les choses qui fâchent, ou alors me désolidariser de ce groupe et le sortir indépendamment. Et je suis très content que Actes Sud ait préféré aussi qu'on dise les choses, même si c'était dissocié de la sortie du film.
Qu'est-ce que vous dites de si désagréable et qu'il ne fallait pas dire, Francis Allais?
Mais je ne dis pas des choses désagréables, je dis ce que je vois. Je dis que la France, elle a un rôle excessif dans la déforestation tropicale. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Hein. J'ai vu des chantiers forestiers français à Sumatra et d'autres en Amérique du Sud. Bon, j'en veux à mon pays parce que nous ne devrions pas nous comporter comme ça. Il y a un langage officiel, il y a l'année de la biodiversité, Mais en réalité, le gouvernement français, il aide les coupeurs de bois par le biais de l'Agence française de développement, c'est-à-dire ça, c'est une banque qui travaille avec notre argent, n'est-ce pas? C'est une banque d'État. Eh bien, ces coupeurs de bois, ils reçoivent là-dedans une aide matérielle considérable. Par conséquent, nos impôts servent à déforester les tropiques. Je ne le supporte pas. Voilà ce que je dis de désagréable, mais je crois que c'est la vérité.
Mais il ne fallait pas le dire.
Aux yeux de Disney, non, il ne fallait pas le dire. On était dans un film enchanteur. C'est le style de Disney, quoi.
Dans votre livre, il y Il y a un chapitre dans lequel vous revenez sur les fantasmes, les élans d'enthousiasme ou d'horreur que la forêt a inspirés.
Ah oui.
Ce qui m'a frappé, c'est que vous commencez par Marco Polo. Et Marco Polo, il me semble qu'il est assez emblématique peut-être de notre époque. Marco Polo, tout simplement, il ne voit pas les forêts. C'est-à-dire, il y va, il y est, il est à côté, il ne voit rien.
Je ne suis pas historien. Je n'ai pas trouvé la moindre évidence que Marco Polo ait mis les pieds en forêt. Par contre, sans y aller, il a très bien compris que c'était une ressource considérable. Et comme c'était un marchand, eh ben, il en a largement profité. Alors, quel est son avis sur la forêt elle-même? Je ne sais pas.
En tout cas, il ne le donne pas.
J'en ai pas connaissance, en tout cas. Pour lui, c'était un entrepôt, voilà. Bien fourni. Il suffisait d'aller piquer dedans. Et c'est ce qu'il a fait.
Mais vous dites que par la suite, les explorateurs qui ont longé la côte africaine, d'eux-mêmes, n'avaient pas l'air de s'aventurer si profondément que ça en forêt. Vous rappelez que la toponymie, par exemple, indique davantage le type de ressources qu'on pouvait trouver sur telle ou telle côte que le type d'arbre ou de végétation qui poussait là.
Côte d'Ivoire, côte des crevettes, côte de l'or, etc. Enfin, ça traduisait plus un intérêt commercial qu'un intérêt vraiment biologique, c'est clair.
Et là-dedans, il y a un personnage touchant qui émerge, c'est Christophe Colomb.
Alors lui, par contre, on a son livre de bord. Diario Diabolodo. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Il arrive dans les îles des Grandes Antilles et il est sous le charme. Il a des descriptions étonnantes des plantes, des arbres, des herbes. Et il y a des choses qui lui rappellent son Espagne natale. C'est assez curieux. Mais les chants d'oiseaux, il est complètement sous le charme. Alors, j'ai bien aimé ça, oui.
Darwin aussi.
Oh, Darwin, alors, c'est complètement différent. Darwin... C'est l'enthousiasme absolu. Il faut dire qu'il a été malade comme un chien pendant la traversée, 32 jours, plus d'un mois de mer. Il arrive à Rio. À ce moment-là, la forêt atlantique était en pleine splendeur. Vraiment, on le voit pousser des cris religieux.
Hosanna, Hosanna.
Hosanna. J'ai même pas eu besoin de traduire ça, hein, ça. Et il voit des choses tellement belles que ça le secoue profondément. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce passage de Darwin parce qu'il est connu pour ses travaux sur l'évolution. Moi, j'y vois un protecteur de la forêt tropicale. Je suis très content qu'il soit de mon côté.
En tout cas, un amoureux.
Sans aucun doute. Mais il faut dire que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel vous vous aventurez dans cette forêt. Si vous venez juste la détruire, ça devient horrible. Si c'est juste pour faire du commerce... Ça ne va pas vous inspirer beaucoup d'admiration. Mais lui, il venait pour voir les sciences naturelles. Et tout l'intéresse. Les papillons, les lianes, tout ça.
Oui, puisqu'il y a d'autres explorateurs, effectivement, et pas seulement des explorateurs, des voyageurs, appelons les voyageurs simplement, qui, eux, ont détesté. Alors vous dites, si vous venez pour détruire, mais il y en a qui, même sans velléité de destruction, sont très rebutés par la forêt.
Oui, ceux qui y viennent... qui s'y trouve un peu par hasard, quoi, sans avoir investi dans la connaissance de ce milieu.
Vous pensez qu'il faut se préparer ?
Oui, absolument, oui. Oui, je pense que quelqu'un qui s'y trouve par hasard, il n'est pas heureux. Voilà. C'est les textes que j'ai cités. Il y a des militaires, par exemple, qui traversent l'Amazonie. Il y a des prêtres qui traversent l'Amazonie. Ils sont profondément malheureux et tout leur fait peur. Mais ceux qui s'y préparent, c'est le cas de Luc Jacquet, justement. Ça devient passionnant. Et plus on est préparé, plus ça devient passionnant. Alors, il n'y a pas de limite dans le côté étonnant de ce qu'on constate.
Pourquoi est-ce qu'il faut cette préparation? Et quel type de préparation?
De l'empathie pour ce qu'on va voir, plantes et animaux. Si on n'a pas cette empathie, si on s'en fiche, ou pire, si on vient pour en tirer du fric, alors ça se passe très très mal.
Donc commencer à apprendre, à chercher un peu ce qu'on va voir à...
Non, c'est pas possible. Par contre, il faut être accompagné par quelqu'un qui connaît bien le terrain et qui sert de guide, enfin. Voilà. Il faut surtout pas aller seul dans ces pays-là, dans ces régions-là. Et oui, il faut avoir quelqu'un qui fasse le passeur, enfin. Moi, j'en ai bénéficié quand j'étais jeune chercheur, et voilà, j'en fais bénéficier maintenant ceux qui m'accompagnent.
Mais qu'est-ce qui est si déroutant qu'on ait à ce point besoin de s'être préparé mentalement?
Alors là, la réponse est immédiate, c'est le niveau de diversité biologique. Moi, on aime bien les forêts d'Europe, il n'y a pas de problème, on s'y déplace avec plaisir. Mais enfin, on n'est pas gêné non plus par la diversité biologique. On voit peu d'animaux. Ceux qu'on voit ne sont pas dangereux. Enfin, c'est très paisible. Alors, dès qu'on est dans une forêt équatoriale, c'est complètement différent. Parce qu'on réalise qu'on est dans le centre de la biodiversité mondiale. Je ne dis pas que c'est dangereux, mais il faut s'attendre à ça. S'y préparer.
C'est la richesse extraordinaire, en fait.
De forme de vie extraordinaire qui est tellement surprenante. Oui. On ne trouve pas deux arbres de la même espèce. Il y en a sans doute, mais à tant de kilomètres qu'on ne les voit pas. Quant aux animaux, ils sont omniprésents. Dans la journée, on ne les voit pas beaucoup, mais on les entend, une espèce de vacarme permanent. Et alors la nuit, c'est grandiose. On ne voit plus rien, mais on entend tout. C'est extraordinaire. Ça, le concert nocturne, c'est vraiment quelque chose d'étonnant.
D'ailleurs, vous dites, Francis Allais, que c'est important, lors d'une première visite, et les suivantes aussi, j'imagine, d'utiliser ses sens au maximum. Et c'est vrai qu'en général, dans les textes scientifiques, on ne parle pas des sens. Mais vous parlez des sons, des odeurs, des couleurs, des sensations.
Je crois avoir atteint un âge où je peux me permettre de me moquer de mes collègues. Le langage scientifique contemporain, il ne laisse aucune place au témoignage des sens. Pourquoi ? Parce que les témoignages des sens, ils peuvent nous tromper. Or, la science s'affirme comme étant au-dessus de ces contingences considérées comme trop humaines, je dirais. Alors, le texte scientifique, il est parfaitement rigoureux, avec des courbes et des abacs et tout ce qu'on veut. Bon, moi, je constate que ça, d'abord, ça n'aidera pas à ce que le public éprouve de l'empathie pour les forêts qui m'intéressent. Et je dirais qu'à la limite, les gens ne comprennent pas. Et puis quand ils mettent les pieds, s'ils le font, s'ils viennent mettre les pieds dans ces forêts, ils réalisent que ce dont ils ont besoin, c'est de leur sens. Et d'ailleurs, c'est magnifique. L'exercice des sens dans ce milieu-là, c'est passionnant. Et donc je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Enfin, pour moi, c'est un vieux réflexe. Je ne peux pas me déplacer en forêt sans écouter, sans froisser les feuilles, sentir. Je me repère dans les familles végétales comme ça. Donc j'ai besoin de mes sens.
Il y a beaucoup d'odeurs, de parfums ?
Alors, il y a des organes dont on s'attend à ce que ça sente, des fleurs ou des fruits mûrs, oui. Mais ce qui est curieux et beaucoup moins facile à expliquer, c'est que quand vous faites une petite blessure dans le bas d'un arbre, il y a des odeurs étonnantes. On se dit, mais c'est pas fait pour être perçu, ça, puisqu'il faut procéder à une blessure pour le sentir. Alors, de fait, il y a des animaux qui essayent de faire des trous dans le bas des arbres. Et ces odeurs étonnantes, je crois qu'il faut les interpréter comme dissuasives pour ces animaux-là. Donc, elles ont leur raison d'être. J'aime beaucoup ces odeurs. Oui. Il y a un arbre en Guyane qui sent mon urine quand j'ai bouffé des asperges. Le problème avec les odeurs, c'est qu'on ne peut pas les décrire, on ne peut que les comparer. Des couleurs, je peux utiliser un code des couleurs, mais il n'y a pas de code des odeurs. Donc je suis obligé de faire appel à des points de comparaison.
Vous citez un arbre qui sent l'appartement bourgeois avec une sorte d'encaustique.
Oui, c'est un arbre très sophistiqué, le grand Moabi d'Afrique, effectivement. On a eu la chance de tomber sur les fleurs. On a tous respiré ce parfum incroyable et on était presque tous d'accord sur une note urbaine. Mais ça veut dire quoi ? Alors moi, ça me fait penser à un grand appartement sur les quais de la Seine, en face du Louvre. Voilà. Ça reste à décrire plus finement, mais enfin, c'est très curieux les parfums. On en a besoin tout le temps en forêt. On voit peu les animaux, mais on les sent très fort. Et donc, voilà, c'est même important de faire appel à ce sens-là.
Justement, le regard, Francis Allais, vous revenez souvent sur le fait que les animaux sont effectivement invisibles et que le paysage, il est vraiment fait par la végétation, par les arbres.
Ah, mais ça, c'est vrai partout. Ce que nous savons des paysages, c'est fondé sur l'observation des plantes. Mais même en Europe, quand on parle d'une prairie ou d'une forêt ou d'un marais, ça ne pose aucune hypothèse sur la faune. C'est uniquement une description de la végétation. Il faut dire que les plantes sont beaucoup plus abondantes et puis fixes. Donc elles ont évidemment un rôle dans la définition de nos paysages. Les animaux, ils sont là-dedans, mais pas plus que nous, ils ne définissent le paysage. C'est une question de volume, ça. Dans les tropiques, c'est peut-être encore plus vrai parce que il y a beaucoup plus d'animaux. On les entend, mais on ne les voit pas.
Ils se cachent ?
Alors, il faut distinguer le sous-bois de la canopée, là. Dans le sous-bois, je ne dis pas qu'ils se cachent, mais ils sont souvent d'une couleur qui fait que ils se démarquent pas du fond. En plus, ils ne bougent pas. Ils ont la stratégie de ne pas bouger. Par exemple, en début de promenade, on tombe sur une grosse mygale. Ce n'est pas très sympathique. Alors, elle prend une attitude d'attaque, comme ça. Et puis, en fin de journée, on revient, elle est toujours comme ça.
C'est vrai.
On a passé la journée dans son attitude d'attaque. Les animaux sont marrants, mais ils ne sont pas très futés.
Enfin, l'immobilité, je ne veux pas dire, mais les arbres, ils la pratiquent beaucoup.
Ils n'ont pas de prétention dans ce domaine-là. Ils ont choisi l'immobilité. Tandis qu'un animal, on pourrait attendre je sais pas, un comportement un peu plus fluide. Alors, non, je ne dis pas qu'ils se cachent, mais d'abord, c'est des animaux très sombres, avec la même couleur que le fond, et leur attitude est de ne pas bouger. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le voit, mais on en voit très peu.
Cette couleur sombre, c'est vraiment celle de la forêt, telle que vous la décrivez ?
Non, la couleur sombre, c'est sur des objets sombres, des bases de troncs, des bois pourris, des choses sombres, en effet. Mais il y a aussi des animaux verts sur des feuilles vertes, ou jaunes dans des fleurs jaunes. En fait, il s'agit de ne pas être vu par rapport au fond. Et si on ajoute à ça l'immobilité, ben, ça fait que dans le sous-bois équatorial, on voit peu d'animaux.
Mais là, je parlais plus généralement maintenant. Toutes vos descriptions ont quelque chose d'assez crépusculaire. Vous parlez de lumière d'aquarium. Il y a tout ce chapitre sur les plantes des sous-bois, oui, où il y a 0,1% de la lumière qu'on trouve sur la canopée, c'est-à-dire vraiment très très peu. Et puis cette ambiance, effectivement, où de temps en temps, par la grâce d'un chablis par exemple, il va y avoir une trouée de soleil, mais l'impression générale, c'est quand même celle d'une lumière très atténuée.
Bah, 0,1%, 0,5% peut-être, ça fait effectivement quelque chose de très sombre. C'est très reposant en même temps, parce qu'on est sous l'équateur, il y a un soleil énorme, mais on est à l'ombre et dans une relative fraîcheur. C'est pas du tout désagréable. C'est simplement pas excitant, quoi. Les odeurs sont des odeurs de bois pourri, de feuilles mortes, de terre, de champignons. Les animaux, on sait qu'ils sont là, mais on les voit pas. Et même les plantes, je vois la base des troncs. Mais si je veux avoir des fleurs ou des fruits, je sais que c'est là-haut. Tout ce que je trouve, c'est des fragments sur le sol, tombés de la canopée. Alors c'est un milieu qui n'est pas du tout désagréable, le sous-bois, mais il est austère, voilà. On n'est pas là pour rigoler.
Mais on est là pour marcher, et on marche finalement assez bien.
Dans la forêt primaire, on peut courir même. Oui, c'est totalement clair en termes de progression. C'est sombre en termes de lumière, mais la progression est extrêmement facile. C'est un des éléments du drame d'ailleurs. C'est que la forêt primaire, n'importe qui peut s'y déplacer. On peut faire 50 km dans la journée, c'est pas un problème.
Parce qu'en fait, le maître mot, c'est la verticalité.
La verticalité est effectivement très importante. On est entouré de troncs verticaux, en effet, tous identiques. Ça a une incidence fâcheuse, c'est que si on fait un tour sur soi-même, vous faites un tour sur vous-même, vous savez plus. Donc on se perd très facilement, on voit plus le soleil, on sait même pas dans quelle zone du ciel il est. Donc on est très vite perdu. C'est le danger de la forêt.
Comment est-ce qu'on se repère alors ?
on se repère pas. Il faut avoir un guide. Non, si on peut se repérer. Alors, si on envisage de faire seul une petite route, ça nous arrive. Il faut faire des marques à la machette sur les troncs, mais pas dans le sens où on avance, dans le sens où on va revenir. Mais le mieux, c'est d'avoir un guide. Et si le guide a une boussole, c'est encore mieux. Et moi, je m'aperçois que deux guides, ça vaut mieux. Comme ça, il y en a un qui guide l'autre.
Parce que les guides aussi se perdent ?
Et ça leur arrive, oui. Et ça, c'est... On perd tout humour et toute empathie envers la forêt.
Vous commencez votre livre, Francis Allais, par une promenade qu'on pourrait qualifier de virtuelle, puisque la proposition que vous faites est assez curieuse. Vous nous proposez une promenade dans une forêt dont vous ne nous dites pas si elle est en Afrique, en Asie. On sait simplement qu'elle est proche de l'équateur.
C'est intentionnel, Ruth, parce que ça n'a pas d'importance qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Asie ou en Mélanésie. C'est la même forêt. C'est ça que je trouve très étonnant. C'est la même forêt. C'est les mêmes odeurs, les mêmes lumières, les mêmes sons. Le paradoxe, c'est que c'est pas du tout les mêmes arbres d'un continent à l'autre. C'est pas du tout les mêmes animaux. En fait, tout est différent. J'évoque dans ce livre une expérience un peu idiote. Je n'ai jamais pu me résoudre à la faire réellement. C'est de prendre un étudiant ou une étudiante, de lui bander les yeux, de le faire monter dans l'avion et de le faire débarquer dans une forêt et de lui demander dans quel continent il était. Bon, techniquement, ce n'est pas très commode à réaliser. Mais ça n'aurait pas été facile pour l'étudiante ou l'étudiant concerné de savoir si c'est l'Afrique, l'Amérique ou l'Asie. C'est pour ça que cette balade, elle n'est pas virtuelle. Elle est simplement non localisée. Et je crois que ça, à ce stade-là, ça n'a pas d'importance.
Mais quand même, expliquez-nous ça, parce que c'est un paradoxe assez magique. Francis Allais, on peut dire que c'est la même forêt et pourtant rien n'est pareil.
C'est justement ça le paradoxe. Quand on est devant un énorme arbre qui ne tiendrait pas dans cette pièce-là, couvert de mousse, eh bien, ça pourrait être un méranti asiatique ou un noyer du Brésil. Il n'y a aucun moyen de trancher, sauf à se lancer dans un travail naturaliste, mais qui va prendre pas mal de temps. Et d'ailleurs, si je cherchais des indices pour savoir dans quel continent je me trouve, je pense que les indices animaux seraient plus efficaces. S'il y a des sangsues sur le sol, par exemple, qui viennent vers nous, comme ça, alors c'est l'Asie ou Madagascar. Si j'entends un singe hurleur, c'est l'Amérique. Mais je pense que les marqueurs animaux seront plus efficaces.
Le fait que tout soit différent, la faune, la flore, c'est dû au fait, dites-vous, que le point de départ était sans doute commun.
Et oui, il y a une époque, mais c'est bien avant l'introduction même des plantes à fleurs sur cette planète. Tout était groupé. On peut penser que c'était relativement homogène à l'époque. Et puis cette Pangée, elle est partie dans toutes les directions. Et au-delà d'une certaine distance entre les morceaux de la Pangée, il n'y a plus d'échange de gènes. Donc l'évolution continue. Mais chaque morceau de la Pangée va avoir sa propre évolution. C'est pour ça qu'on trouve des oiseaux à la fois en Asie et en Australie. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes oiseaux puisqu'ils sont coupés les uns des autres. Et ce que je dis des oiseaux, c'est pareil, évidemment, pour n'importe quelle famille de plantes. Oui.
Si ce n'est que, là encore, on arrive dans des zones surprenantes, pas mystérieuses, mais en tout cas surprenantes. Si ce n'est que, tout de même, les arbres, par exemple, ces arbres que vous décrivez comme différents d'un continent à l'autre, ils ont tous des cousins jusque chez nous. C'est-à-dire, on est quand même dans des familles qui se retrouvent un peu partout. Alors là, il ne s'agit plus d'aller d'un bout à l'autre des tropiques, mais de quitter les tropiques pour venir dans les zones tempérées. Et par exemple, une cousine particulièrement charmante du fromager, qui est cet arbre immense avec des contreforts extraordinaires, c'est la rose trémière.
La rose trémière, en effet. Alors, la différence entre les deux, c'est que le fromager, c'est un grand arbre. Donc, il est... Comment dire? Il passe sa vie à l'extérieur. Tandis que la pauvre rose trémière, quand c'est l'hiver, elle ne peut plus vivre à l'extérieur. Elle perd tout. Il n'y a plus rien qui sort du sol. La plante se réfugie dans le sol. Et ce que j'ai dit là de cette famille des malvacées avec le fromager et la rose trémière, je pourrais le dire de quantité de familles, des grands arbres tropicaux qui peuvent vivre en permanence dans l'environnement très facile des tropiques. Et puis des descendants de ces arbres-là qui, au-delà d'une certaine latitude, sont obligés de s'enfouir pendant l'hiver. De s'enfouir ou de mourir, tout simplement, et de ne laisser que des graines. Là, les graines, elles ne craignent pas le froid, et ça va assurer la relève l'année d'après.
Mais du coup, ça ne poussera jamais très haut, ni très longtemps.
Ben, si vous vous limitez à la période favorable de croissance végétale dans nos régions, c'est clair que ça ne va pas donner un arbre, ça va donner des petites herbes. C'est la raison pour laquelle, ici, on a plein d'herbes, alors que dans les forêts équatoriales, on a surtout plein d'arbres.
Alors, Francis Allais, on s'est beaucoup promené, là. On s'est promené entre la faune, la flore, on s'est promené entre les continents, entre les latitudes. Si maintenant, on rentre véritablement dans la forêt avec vous, on a tout à l'heure évoqué le sous-bois, et surtout, vous avez à plusieurs reprises parlé de la difficulté qu'il y aurait à reconnaître un arbre. D'abord, vous disiez, il n'y en a pas deux identiques, il faut vraiment marcher des kilomètres pour retrouver le frère du premier. Donc déjà, cette diversité que vous évoquez, elle est tout de suite présente, mais en plus, ce sont des arbres qu'on ne connaît pas, même si on connaît leurs cousines.
Ça m'arrive de travailler dans des régions où il y a 20% des plantes qui ne sont pas connues, en effet. Alors, c'est un gros travail de mettre un nom sur une plante, mais c'est un travail qui peut n'avoir aucune issue si c'est une plante qui n'a pas de nom. Alors, on perd son temps. Et évidemment, ce n'est pas marqué dessus. Alors, avec un peu d'expérience, on arrive assez facilement à mettre un nom de famille. Et quand j'ai mis un nom de famille sur une plante, déjà, je me sens très soulagé. Seulement, ça n'est que le début du boulot, parce qu'il faut ensuite trouver le genre, puis l'espèce. Et ça, c'est vraiment un travail de spécialiste. C'est curieux. Ça peut être un travail de spécialiste. Ça peut aussi être la connaissance empirique du gars qui est avec moi en tant que guide. Lui, il a un nom pour cette espèce-là. Aucun problème. Alors, je note le nom. Seulement, ça me laisse un peu sur ma faim. Le fait que le gars il soit capable de reconnaître cette espèce, c'est très bien pour lui. Moi, ça ne me suffit pas. J'ai envie de savoir ce que c'est. Alors d'abord, c'est des arbres très hauts. Donc c'est très difficile d'avoir des fleurs ou des fruits. Rabattre l'arbre, ça me gênerait un peu. Grimper à l'arbre, je l'ai fait beaucoup. Maintenant, je le fais un peu moins. Mais si on veut des fleurs, il faut grimper.
Mais des fleurs, il n'y en a pas tout le temps.
Il n'y en a pas tout le temps, en effet, oui, c'est vrai. Et en plus, dans une même espèce, ils ne sont pas en fleurs en même temps. Et c'est même plus compliqué que ça. Dans un même arbre, les branches ne sont pas en fleurs en même temps. Et il faut laisser tomber toutes nos idées qu'on peut amener des régions européennes. C'est ce qui en fait le charme, à mon avis, de ces forêts-là.
Donc admettons que vous ayez trouvé une branche fleurie, vous redescendez, Francis Allais, avec votre fleur.
Ouais. Alors, il faut le mettre en herbier. Et noter soigneusement tout ce qui va disparaître sur l'herbier, c'est-à-dire l'odeur des feuilles froissées, par exemple, ou la couleur des pétales, l'odeur des fleurs, et puis, bien entendu, la date et les coordonnées géographiques précises. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Aller dans la capitale, aller dans l'herbier national, s'il existe. Avec un peu de chance, on trouve la plante dans l'herbier national. Très souvent, on ne la trouve pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'herbier national. À ce moment-là, la ressource, c'est d'aller dans un autre herbier qui correspond au pays ayant colonisé celui où j'ai trouvé mon arbre. Et l'herbier, il est là. Ce n'est pas un herbier national, mais il est là. Bon, si je trouve une plante au Laos que je ne connais pas, c'est à Paris que je vais peut-être trouver ma plante dans l'herbier. Maintenant, si ma plante n'est pas dans l'herbier, c'est qu'elle est nouvelle. Du coup, c'est pas la peine que je me batte pour lui mettre un nom, puisqu'il n'en a pas. Et comme c'est pas du tout mon métier de mettre un nom sur les nouvelles plantes, je confie ça à un collègue.
Ça c'est un métier ? Nommeur d'arbres ?
Pas nommeur d'arbres, nommeur de plantes. Ça peut être des arbres, ça peut être des petites herbes. Mais c'est un métier, en effet. C'est la nomenclature botanique. Moi, je ne me suis jamais mis là-dedans, mais c'est effectivement un métier que j'admire beaucoup, d'ailleurs, et j'ai le plus grand besoin de ces gens-là. Et ils sont obligés, vous le comprenez, de travailler dans un grand herbier. Ils ne peuvent pas faire ça en dehors des grandes capitales. Alors, au bout de 3-4 ans, le nom de mon arbre paraît dans une revue spécialisée.
On ne vous l'annonce pas à vous d'abord ?
Non, c'est complètement déconnecté.
Et vous le reconnaissez à ce moment-là, votre arbre ?
Il y a généralement un dessin sur la description. Si j'ai moi-même fait un dessin, oui, ça m'arrive de le reconnaître très bien. L'ennui, c'est que le pauvre arbre, il est probablement tombé entre-temps. Donc il est nommé, mais il est tué en même temps.
Ce guide qui était avec vous tout à l'heure et qui connaissait, lui, le nom de l'arbre, en fait, il vous a donné l'idée, Francis Allais, de trouver une méthode pour arriver à déchiffrer ces arbres si différents les uns des autres. Il fallait une clé. C'est un peu comme la pierre de Rosette, en fait.
Je me suis souvent demandé comment faisaient les guides pour mettre un nom sur les arbres. Mais si vous évoquez là leur silhouette, ça ne va pas marcher, Ruth. Parce que quand on est en forêt, on ne voit pas la silhouette de l'arbre. On voit juste la base du tronc avec les éventuels contreforts, ou bien pas de contreforts du tout, ou bien c'est un peu plus gros à 3 mètres de haut qu'au niveau du sol, etc. C'est pas la silhouette. On n'a pas de recul. Pour pouvoir tirer parti de la silhouette dans l'identification des arbres, il faut sortir de la forêt et la voir de loin, de manière à ce que les arbres dominants y dépassent et qu'on puisse les décrire.
Mais donc là, on voit plus que les frondaisons, on voit plus les troncs. En fait, c'est très difficile de voir un arbre en entier la forêt.
Il faut qu'il soit isolé, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Maintenant, si on me laisse le choix entre voir le tronc ou voir la silhouette de la frondaison, je préfère la silhouette. Un iroquois ou un limba, ce n'est pas du tout la même silhouette, mais ça va être le même tronc. Non, alors il faut prendre du recul et regarder la forêt de plus loin. Voilà. Là, on arrive maintenant à mettre des noms sur les arbres.
Parce que, de fait, c'est moi qui vais le dire alors, puisque vous ne le dites pas, vous avez trouvé cette clé dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de schémas architecturaux pour les arbres.
N'allons pas trop vite. Je voudrais d'abord dire que les gens du pays, ils ne s'occupent absolument pas des fleurs ou des fruits, comme on le fait en Europe pour identifier une plante. La flore de France, c'est fondé sur l'étude des fleurs et des fruits. Bon, eux, ça ne les intéresse pas, ça. Ce qu'ils voient, c'est la silhouette. Ils reconnaissent très facilement les arbres de leur pays à la silhouette. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Parce que qu'est-ce qui détermine la silhouette d'un arbre? C'est son programme génétique de croissance. On est dans un pays qui est parfaitement favorable à la croissance végétale, puisqu'il ne fait jamais froid, jamais sec, jamais sombre. Enfin bref, c'est l'idéal pour la croissance des plantes. Donc le programme génétique en question, il se déploie de façon parfaite et parfaitement visible. C'est ça qui est intéressant. Alors, quand on fait le tour de la question, on s'aperçoit en effet qu'il y a une vingtaine de ces programmes différents. Je viens d'ailleurs d'en découvrir deux nouveaux.
C'est vrai?
Oui, oui, ça m'intéresse.
On était à 24?
Oui, mais il y en a que je supprime aussi. Enfin, bon, ça se met au point, c'est en cours. Oh non, ça va tourner autour de 22. Voilà, c'est des programmes qualitativement différents que le génome de la plante se traduit en forme et donc en silhouette. Et voilà comment on peut distinguer les arbres tropicaux. Si on a des fleurs, c'est mieux. Mais comme généralement on n'en a pas, on est bien obligé de faire autrement.
Il peut arriver qu'on en ait, il peut arriver qu'on ait même des fleurs au pied des arbres, sur les troncs. Et puis il peut arriver que ces fleurs abritent des fourmilières. Il peut arriver toutes sortes de choses que vous décrivez, Francis Allais. On a beaucoup parlé des arbres et c'est normal. Les arbres, vous le dites, c'est vraiment l'ossature de la forêt. C'est ce qui crée la forêt. Mais vous parlez aussi dans votre livre des lianes, par exemple, et des plantes épiphytes, et de toutes sortes de choses qu'on pourrait ne pas voir, justement, fasciné qu'on serait par les arbres.
Les plantes épiphytes, c'est très étonnant. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à faire comprendre aux Européens parce qu'on n'a pas de plantes épiphytes ici. Il faut imaginer qu'un vieil arbre, les branches les plus hautes d'un vieil arbre, c'est comme un jardin. On peut marcher là-dessus et on ne sait pas où marcher parce qu'il y a des fleurs partout et qu'on n'a pas envie de les écraser. C'est des branches énormes, hein. Donc on peut facilement marcher là-dessus. Et c'est couvert de mousse. Le chêne que je vois là, il a des mousses sur les branches. Mais ça n'est que le premier stade. Après les mousses, il vient des orchidées, il vient des fougères, il vient des bégonias, il vient même des plantes d'eau. C'est tout à fait étonnant. Alors, des jardins d'épiphytes, ça, c'est très étonnant pour les botanistes, en effet. Mais c'est des plantes relativement bien connues, parce qu'elles ont une espèce de séduction naturelle qui fait que on a des collections d'épiphytes. Aux États-Unis, ils en ont plusieurs. En France, on en a aussi. finalement, c'est des plantes faciles à cultiver parce qu'elles n'ont pas besoin de sol, juste un peu d'humidité atmosphérique, ça leur suffit. On les connaît assez bien. Les plantes qu'on connaît le moins, c'est de très loin, c'est les lianes. Un arbre, ça ne se fait plus maintenant, mais quand j'étais jeune chercheur, je voyais mes anciens, mes aînés, n'hésitaient pas à couper un arbre pour récolter les échantillons. On peut le faire, techniquement c'est possible, mais couper une liane, ça ne va pas marcher et rien qui va tomber. Les racines d'une liane, ça n'a pas de fonction mécanique, c'est juste un capteur d'eau. Ce n'est pas ça qui la tient debout. Elle est tenue debout parce qu'elle est accrochée en haut. Donc on ne peut pas la couper.
Et surtout qu'elle est très très longue, elle n'est pas accrochée à un seul arbre.
Exactement. On ne peut pas non plus couper l'arbre sur lequel on croit qu'elle est accrochée parce qu'en fait, elle intéresse une douzaine d'arbres.
Elle peut faire 150, 170 mètres de long.
Ah non, non, bien plus que ça. 170 mètres, ça a été mesuré. Des glycines ici ont été mesurées à 170 mètres. Ah non, non, c'est 400 mètres. Il est possible que ça atteigne un kilomètre. Donc c'est beaucoup plus que les plus grands arbres. Donc c'est impossible à abattre, ça c'est clair. C'est même pas la peine d'essayer. La seule solution, c'est d'accéder à la canopée et de récolter ces lianes-là dans la canopée, parce que c'est là qu'elles s'épanouissent, en prenant appui sur les arbres.
C'est-à-dire que d'en bas, on ne voit pratiquement rien. On voit simplement une corde qui monte.
Oh, enfin, une corde qui peut être comme ça. Hein.
Et très grosse.
Très grosse. Et je peux aussi la secouer, et je m'aperçois que c'est très mou. Je peux lui donner un ballon, et je vois l'onde qui part vers le haut. Pas question de faire ça avec un arbre de ce diamètre-là. Et elles ont une mécanique qui est déjà en elle-même quelque chose de très très étonnant, les lianes. C'est très résistant et en même temps très souple.
Mais oui, parce que ça n'est pas une herbe, il y a de la lignine.
Oui, il y a de la lignine dans les herbes aussi, mais c'est pas très différent de la structure d'un arbre, sauf que voilà, c'est comme si on mettait côte à côte une demi-douzaine de petits arbres entouré d'une écorce commune. C'est comme une corde avec des torons. C'est ça qui leur donne cette espèce de souplesse.
Et de résistance.
Et de résistance, effectivement. C'est terriblement résistant. C'est des plantes passionnantes. Moi, je me dis que si c'était à recommencer, je m'intéresserais plus aux lianes.
Il y a le rotin, par exemple, que je trouve assez fascinant, que vous décrivez. Vous faites le portrait.
Calamus manane, oui. Un beau rotin du sud-est asiatique, comme tous les rotins. Il pousse comme ça, et il atteint la canopée. Qu'est-ce qu'il fait arriver là? Il ne peut pas s'accrocher puisqu'il n'y a plus rien. Et pourtant, il n'en est qu'au tout début de sa croissance. Il a encore des centaines de mètres à produire, mais il ne peut pas monter. Alors il les produit vers le bas.
Il s'enroule.
Il s'enroule sur lui-même et le calamus manane, on le rencontre dans le sous-bois sous forme d'une énorme pile de... comme un câble. Ça me fait penser au câble transatlantique. C'est tout noirci, c'est brillant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est le calamus qui, ne pouvant pousser en hauteur, il accumule ses tiges sur le sol. Il atteint 400 mètres, je crois, dans une forêt qui a 40 mètres.
On a parlé de la diversité des formes, mais il y a aussi la diversité des stratégies adoptées par les plantes. Pour avoir de l'eau, par exemple, ou pour pousser, par exemple, ou pour compenser l'absence de tronc, par exemple.
Oui, attendez, la plupart des stratégies de vie des plantes, nous les avons ici. Un arbre, qu'il soit ici ou qu'il soit sous l'équateur, c'est un arbre. Bon, il y a des modes de vie que nous n'avons pas. On a très peu de lianes ici, très très peu. La flore d'Europe, elle est dramatiquement pauvre en lianes. Mais surtout, on n'a pas d'épiphytes. Les épiphytes, elles sont, comme je l'ai dit, accrochées aux branches, donc elles n'ont pas de sol. Comment fait une plante qui n'a pas de sol? Son problème est évidemment de s'alimenter en eau. Une plante normale, disons, elle prend l'eau du sol. S'il n'y a pas de sol, alors c'est là qu'il y a eu un déploiement étonnant de stratégies. Il y a, parmi ces plantes épiphytes, il y a celles qui tournent le problème. Elles se mettent dans des endroits où il y a toujours de l'eau, quitte à avoir un peu moins de lumière. Elles s'accrochent au bas des troncs. Donc là, c'est toujours humide. Une stratégie complètement différente, c'est celle qui, je dirais, qui baisse les bras. Elles ne meurent pas, mais elles entrent dans une espèce de vie ralentie. Elles se dessèchent. C'est ce que font nos mousses ici. Quand il ne pleut pas sur une mousse, elle n'est plus vivante. Elle est dans une forme quasiment morte. Simplement, c'est réviviscent, c'est-à-dire que quand la pluie arrive, tout ça repart. Bon, il y a encore beaucoup d'autres stratégies. Il y en a qui profitent des rares pluies, enfin des pluies, disons, pour stocker l'eau. Alors, elles peuvent le stocker à l'intérieur d'elles-mêmes, ça devient des plantes grasses, plantes succulentes, comme on dit nous. La réserve est dans la plante. Les orchidées, par exemple, c'est souvent comme ça. Elles ont ce qu'on appelle les pseudo-bulbes. Ça ressemble à un fruit charnu et c'est plein d'eau. Voilà. Et la plante, quand il ne pleut pas, elle vit sur ces réserves-là. Je trouve que le plus étonnant, c'est les plantes qui stockent l'eau à l'extérieur d'elles-mêmes et qui sont organisées comme un pluviomètre ou comme un aquarium. C'est parfois très grand. Il peut y avoir 20 litres d'eau dans une de ces plantes-là. Et ça fait un espèce d'aquarium en haut des arbres, en pleine lumière, avec une vie incroyable. C'est là qu'on a trouvé des crabes, il n'y a pas longtemps. C'était tout à fait inattendu. On a pensé que c'était un crabe perdu qui montait du sol et qui n'avait plus retrouvé sa route, mais pas du tout. C'est des crabes. D'abord, il y a plusieurs espèces, je crois qu'ils appartiennent à plusieurs familles. C'est des crabes qui ne descendent jamais. Alors, on se demande ce que mangent ces animaux-là. Ils sont carnivores. On sait maintenant, enfin, c'est des collègues américains qui m'ont indiqué ça, les batraciens, les rainettes arboricoles pondent dans des trous pleins d'eau. Dans les vieux arbres, il y a toujours des trous pleins d'eau. C'est une branche qui s'est arrachée. L'eau se stocke là-dedans. Les rainettes viennent pondre. Et les crabes vivent de la prédation sur les têtards. Et dès qu'il y a une ressource, il y a un prédateur. C'est pareil partout. Et donc, voilà comment s'est créée une communauté de crabes dans les aquariums suspendus. Moi, je trouve que c'est assez étonnant.
À vous entendre, Francis Allais, il n'y a pas de fin à ce foisonnement de vie, à ce foisonnement d'inventivité. Pas de fin non plus aux questions qu'on peut se poser, aux recherches qu'on peut mener dans la forêt.
Écoutez, je suis d'accord avec ça. On devrait être beaucoup plus nombreux à étudier les forêts équatoriales. À les étudier, c'est de la recherche. Il ne s'agit pas de les cultiver ou de les exploiter d'une manière quelconque, il s'agit de les comprendre. C'est un travail de recherche. On est très peu nombreux, on se connaît presque tous, hein, ceux qui s'occupent de forêts équatoriales, on collabore, on échange des messages tout le temps. On devrait être beaucoup plus nombreux parce que tout ça disparaît et il va disparaître des choses étonnantes avant qu'on ait pu vraiment les décrire.
Par exemple, le voyage sur la canopée, c'est très récent.
Les premiers travaux sur la canopée, c'est pas si récent que ça. Dans les années 40, Il y avait déjà des entomologistes illustres d'ailleurs, Renaud Paulian, quelqu'un de très connu. Il se faisait monter dans la canopée, il passait la nuit dans une espèce de cage dans la canopée près d'Abidjan. Voilà, c'est les années 40. Les Anglais aussi ont fait des travaux dans les canopées de Malaisie dans les années 40-50. Enfin, c'était très ponctuel. Là, le vrai démarrage, c'est quand Terry Irwin a démontré que la quasi-totalité de la faune était en haut. Alors là, ça a beaucoup stimulé les gens qui ont eu envie d'aller y travailler. Et j'en fais partie.
Aujourd'hui, les recherches se poursuivent sur la canopée?
Oui, ça se heurte à des manques de crédit. Il y avait un très beau groupe d'études des canopées en Grande-Bretagne. J'ai rencontré le responsable il y a peu de temps et il se réoriente vers de l'écologie forestière beaucoup plus classique parce qu'eux, ils utilisent des grues. Et bien, construire une grue en forêt équatoriale, ce n'est pas dans les moyens des scientifiques. Voilà.
C'est plus facile de construire des tronçonneuses. Ouais. Un des chapitres de votre livre, Francis Allais, on va terminer là-dessus, remonte le temps nécessaire à une forêt pour se reconstruire, une forêt primaire, puisque la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est surtout de la forêt que vous appelez secondaire, c'est-à-dire une forêt qui est en fait en plein processus de régénération. Ce processus, il intervient 50 ans après une coupe à blanc, c'est-à-dire que les 50 premières années, ce sont les arbres pionniers, puis arrive progressivement cette forêt secondaire, elle va durer combien de temps?
Oui, disons 50 ans pour les pionniers. Mais ils ont leur rôle, hein. C'est pas un détail dont on pourrait faire l'économie. 400 ans pour la forêt secondaire, d'abord une forêt secondaire jeune, puis une forêt secondaire âgée, et puis tout ça c'est en continu. Tout d'un coup ça devient adulte, ça devient primaire, et je peux en juger par le fait qu'il n'y a plus de lianes, et que je peux courir dans le sous-bois. Voilà.
Et ça c'est au bout de
7 siècles. C'est un chiffre qu'on a proposé avec un ami hollandais, mon collègue de sylviculture de Wageningen, on a proposé 7 siècles. Ça n'a pas été critiqué depuis. ce qui est sûr, c'est qu'il y a des zones du monde où c'est bloqué. Voilà. Il y a des coins où on aura beau attendre plus, ça ne dépassera pas le stade des forêts secondaires. Je pense notamment à des couloirs de vent où la forêt est détruite régulièrement par des cyclones ou des typhons.
Et là, elle ne reviendra plus.
Non, elle a jamais été primaire. J'ai visité il n'y a pas très longtemps le Yucatan au Mexique. Très mauvaise forêt. C'est pas la faute des gens du Yucatan. C'est simplement qu'ils passent des cyclones régulièrement. Donc les arbres tombent. Et comme les cyclones, c'est un rythme de un très fort tous les 10 ans, ça fait une forêt bloquée à l'état secondaire. Enfin, c'est des cas particuliers. Généralement, 7 siècles, ça nous ramène à la grande forêt primaire.
Donc on n'a plus qu'à attendre à peu près 700 ans ?
Oui, mais la réalité n'est pas celle-là. Parce que dès l'instant que les coupeurs de bois ont ouvert des pistes pour sortir leurs gros arbres, mais tout le monde utilise ces pistes. Des braconniers, des chasseurs, des paysans sans terre qui savent très bien que la terre forestière, elle va être excellente pendant, pas très longtemps, mais 4-5 ans au moins, très très bonne terre. Et puis il y a les chercheurs d'or, et puis il y a d'autres coupeurs de bois qui ne s'intéressent pas aux mêmes essences que les premiers. Donc voilà, leur travail est très simple. Ça grouille de monde, les forêts secondaires. Et c'est pour ça que ça ne redevient pas primaire. Ça devrait, ça ne le fait pas, à cause de l'être humain.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers les livres de Francis Allais et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Alain Joubert, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.